Bonjour à toutes et à tous, bienvenue Esprit Occitanie, votre émission Sentinelle d'Humanité, émission coproduite par l'ANRAS, Association Nationale de Recherche et Action Solidaire. À la technique et à la réalisation, aujourd'hui, Tiffaine, ma complice. Et votre serviteur, Andrés Atenza. Nous recevons aujourd'hui Michel Belot, docteur en psychologie. Mais avant de démarrer une carrière de psychologue, Michel Belot a été infirmier. Il a fait également des études de philosophie. Mais c'est avant tout en tant que psychologue et praticien de la psychologie, notamment à l'hôpital de Lannemezan, à l'hôpital d'Andaye, dans le Pays Basque. Et il vient de publier un ouvrage majeur qui fait référence dans le secteur du polyhandicap. Ouvrage pratique pour les professionnels qui accompagnent les personnes gravement handicapées. Ouvrage dédié également aux aidants et aux familles. Ouvrage publié avec le soutien du groupe Polyhandicap France, qui rassemble des associations et organismes qui œuvrent dans le champ du polyhandicap. Monsieur Michel Belot, merci de votre présence et merci d'avoir accepté cette invitation.
Bonjour André Atenza, c'est moi qui vous remercie de me donner l'occasion de parler un tout petit peu du livre et surtout des personnes polyhandicapées et de leurs familles.
Alors, on va commencer par aborder, parce que c'est 230 pages, donc un ouvrage majeur, là. C'est un ouvrage pratique pour les professionnels. Vraiment, il y a tout ce qui est nécessaire pour construire le projet personnalisé de la personne gravement handicapée. Comment est né cet ouvrage, la genèse, l'origine? Comment cela est venu à votre esprit?
Bien, c'est un ouvrage qui s'est construit progressivement au gré des projets que j'ai pu faire, puisque j'exerçais comme vous l'avez dit au départ, comme infirmier, où on faisait beaucoup plus, on faisait des projets individuels, ce qu'on appelait à l'époque projets individuels, mais qui ressemblent plus à des plans de soins, ce qu'on appelle actuellement plans de soins. Ensuite, en tant que psychologue, je fais beaucoup de projets individuels ou individualisés, comme on les appelait à l'époque. Et finalement, j'ai abouti à la construction d'un outil. Et cet ouvrage est issu un peu de cette maturation à travers les différents projets et surtout à travers les différentes situations que j'ai pu rencontrer dans mon activité professionnelle, puisque cette trame de projet et le lexique qui va avec couvre le champ très vaste des personnes gravement handicapées.
Il faudrait peut-être revenir à la définition d'une personne polyhandicapé ou gravement handicapé. Nous trouvons cela dans nos établissements spécialisés, dans des maisons d'accueil spécialisées, à l'hôpital psychiatrique ou ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement s'il y a une définition et ça correspond à quoi? C'est accident de la route, accident de la vie, des problématiques liées à la naissance. Ce polyhandicap ou personne gravement handicapée, ça recoupe quoi exactement?
Ça regroupe une grande variété de situations. Ce qui fait que il n'y a pas une seule personne polyhandicapée qui ressemble à une autre. Et donc, si on se réfère à la notion de polyhandicap, la définition, vous la trouverez sur le site du groupe Polyhandicap France. Elle est assez longue, c'est pas la peine de la dire maintenant. Mais de façon générale, ce sont des personnes qui ont été atteintes soit avant la naissance, en gros c'est 60%, soit autour de la naissance où il y a eu un problème, ou soit après la naissance où il y a pu avoir aussi des problèmes extrêmement graves, essentiellement des problèmes neurologiques qui ont une incidence globale sur la personne, à la fois, bien sûr, cognitive, intellectuelle, et aussi, dans la plupart des cas, une incidence motrice.
Et donc ces personnes-là, soit ne bougent pas, ne peuvent pas se déplacer, sont souvent en chariot, certaines sont alitées constamment.
Alitées constamment?
Non.
Non. Ça va mieux.
Ça va mieux aujourd'hui.
Ça va beaucoup mieux.
On a progressé dans la prise en charge.
Parce qu'on a beaucoup progressé. Et donc, par exemple, à l'hôpital donc, d'Andaï, nous avions 110 personnes qui étaient alitées, qui ne sortaient jamais de leur chambre et qui regardaient le plafond en longueur de journée. Et nous avons pu les installer dans des fauteuils coques, ce qu'on appelle fauteuils coques ou des fauteuils coquilles ou des sièges moulés. Ce sont donc un appareillage qui leur permet d'être en position semi-assise et qui épouse les déformations de leur corps, parce que souvent ils ont des
souvent,
corps.
Souvent les corps sont déformés.
Sont très déformés.
Et ouais. J'imagine que ces personnes-là ressentent la douleur, mais ne se plaignent pas, ou en tout cas, vous les observez, parce que vous dites que c'est une démarche où il faut regarder, observer, bien dire les choses et bien écrire. C'est ça votre démarche. Donc l'observation de la personne polyhandicapée, c'est très important pour construire le projet.
Au départ, oui. L'observation ne suffit pas, puisqu'on est dans le cadre d'un projet. On n'est pas dans le cadre d'une étude scientifique. Donc, mais par contre, l'observation, elle est absolument nécessaire. Quand on dit observation, souvent on pense observation à distance, observation objective. Ce n'est pas du tout le cas dans le cadre de l'observation des personnes polyhandicapées, puisque si vous vous mettez à distance, il ne se passe rien. Donc c'est beaucoup plus une observation dite écologique, c'est-à-dire une observation qui est liée à l'environnement, c'est-à-dire observer la personne dans son environnement, y compris dans ses interactions avec sa famille, sa mère, son père, les soignants qui s'en occupent, etc.
Dans votre démarche, bien entendu, les aidants, la famille, l'ensemble des personnes qui interviennent autour de la personne gravement handicapée, vous en tenez compte et ils travaillent avec vous dans la construction de ce projet. Ils ne sont pas à côté, vous tentez de les impliquer au maximum pour que cela fonctionne, pour que cela marche, pour qu'il y ait un bénéfice pour la personne, j'imagine.
Il est essentiel de faire participer toutes les personnes concernées par la personne polyhandicapée, tous les intervenants, tous les participants. Et bien sûr la famille, donc en premier lieu. J'ai essayé de faire dans ce livre un outil qui était accessible. Hein, parce que l'accessibilité chez le handicap, on sait ce que c'est. Souvent, on la réduit un peu au trottoir accessible, aux salles accessibles, etc. Mais l'accessibilité chez les personnes polyhandicapées, c'est rendre accessible ce qu'ils vivent, ce dont ils ont besoin. Souvent, la plupart du temps, ils ne nous le montrent pas, ou très peu. Ils nous le disent quasiment jamais, puisqu'ils ne parlent pas. Et donc, ils peuvent, bien sûr, désigner, montrer, enfin, on peut avoir des indices assez fiables pour savoir un peu ce qu'ils vivent. Hein. Mais, d'une façon générale, pour revenir à la question, c'est une co-construction, comme on dit. Alors, le terme de co-construction est un peu bancal parce que ça vient de l'anglais. C'est pour ça que co-construction, c'est un peu redondant, on va dire, hein, parce que c'est construire ensemble. Mais construire, c'est déjà faire ensemble. Voilà. Donc, c'est pour ça que le titre est la construction. Hein. Ceci dit, au niveau donc, des instances gouvernementales, on parle beaucoup de co-construction. Alors, il est important qu'il y ait une co-construction. Mais dans le livre, j'essaye de développer aussi l'idée que la participation de la personne est essentielle également. C'est-à-dire qu'on ne va pas non plus co-construire, au-dessus de la personne un système, un projet dans lequel elle ne sera pas partie prenante.
Et pourtant, vous dites, c'est difficile pour savoir ses besoins. Elle ne s'exprime pas, elle ne parle pas, il y a des signaux. Et vous devez donc, dans cette observation, en tant que psychologue, praticien de la prise en charge, sentir ces fameux signaux faibles pour dire « oui, il me semble que j'ai compris » ou « c'est dans ce sens que je dois y aller ». Votre trame et votre livre abordent des questions de la vie quotidienne. Le lever, la toilette, les repas, le rythme d'éveil, le sommeil, la nuit. Et je crois que la nuit, il se passe beaucoup de choses chez la personne
également,
handicapée,
oui.
Peut-être on en parlera.
Comme nous.
Voilà, plein de choses.
Donc, comme pour nous.
Allez, on bouge, il se passe des choses. D'ailleurs, il me semble que vous dites que la personne handicapée, on a l'impression qu'elle ne bouge pas, et pourtant elle bouge. Donc les activités, toutes les activités. Alors vous pouvez nous dire comment vous avez construit ce questionnement, parce que dans cet ouvrage de 130 pages, il y a quasiment 300 questions. Vous posez 300 questions. Et il faut passer en revue l'ensemble de ces questions pour construire un projet humain pour ces personnes-là.
Déjà, il est important d'avoir en tête que le projet personnalisé pour les personnes polyhandicapées, ce n'est pas un projet ciblé. C'est un projet global. Pour la bonne raison que le polyhandicap, ce n'est pas un handicap particulier. C'est un ensemble de handicaps qui ne vont pas s'additionner, mais qui vont se potentialiser et qui vont vraiment affecter la vie de la personne. Hein? C'est-à-dire que quand on est paralysé, qu'on ne peut pas bouger, ben on sera aussi touché sur le plan cognitif, parce que on ne pourra pas faire certaines expériences cognitives simples, hein, d'explorer, de toucher, etc. On sera aussi limité au niveau affectif, parce que si on ne bouge pas, on va peut-être rencontrer beaucoup moins de gens que le commun des mortels,
etc. Dites valide,
voilà.
Bien évidemment.
Donc, il est essentiel qu'il y ait une dimension globale dans ce projet personnalisé. Quand vous dites qu'il y a plus de 300 questions, c'est vrai. Mais on ne va pas répondre aux 300 questions. D'abord, il y a des questions qui sont complètement inappropriées, donc on ne répond pas. Il y a des questions qui vont peut-être interpeller plus ou moins les personnes qui vont construire le projet. Et à ce moment-là, elles vont s'approprier ces questions-là et y répondre. Ce sont des questions, c'est-à-dire qu'on demande à la personne qu'elle écrive, qu'elle réponde à la question avec un sujet, un verbe, un complément.
Il y a un vrai travail d'écriture du projet.
Voilà. Donc il y a vraiment un travail d'écriture, il y a un travail de recherche de vocabulaire, il y a un travail de dire le plus justement possible l'expérience qu'on a vécue ou qu'on vit avec la personne.
Qui fabrique, qui confectionne, vous dites co-construction? Est-ce que c'est un travail qui se fait de façon pluridisciplinaire avec l'ensemble des équipes, psychologues, infirmiers, peut-être éducateurs, assistants sociaux, père-mère, qui participe à cette élaboration, ou est-il porté plus particulièrement par le psychologue ou plus particulièrement par un infirmier ou un éducateur spécialisé?
C'est très difficile de répondre à cette question. Parce que les situations dans les établissements ou dans les services, à domicile, etc., sont extrêmement diverses. D'abord, il n'y a pas toujours le personnel que vous décrivez.
Dédié, il n'y a pas toujours le personnel dédié. Donc, on voit bien, soit par pénurie ou par attractivité, ou tout simplement parce qu'il y a un problème financier, peut-être tout en même temps.
Je pense qu'il y a des situations disparates, du fait aussi de l'orientation, hein, de l'établissement ou du service. Si c'est un externat, ce n'est pas pareil qu'un internat, etc. Mais également aussi du fait qu'il y a de moins en moins de temps pour élaborer, qu'il y a beaucoup de roulements de personnel, etc. Bon, vous connaissez un peu la situation. Donc, pour répondre à cette question, moi, j'ai absolument pas indiqué qui devait écrire, qui devait rédiger. Par contre, ce qui me semble essentiel, c'est qu'il y ait des personnes qui connaissent bien la personne
qui puisse handicapé,
qui puisse répondre. Donc, en général, il y a un système de référent. Bon, c'est assez classique dans le médico-social. Il faut absolument que les référents ne changent pas tous les 6 mois. Donc, ça, c'est déjà plus dur, hein, parce qu'on voit quand même ce type de situation. Il est bon qu'il y ait une permanence dans le temps, voilà, qui sert à la fois aux professionnels, pour voir l'évolution, en fait, etc., mais qui sert surtout à l'enfant ou à l'adulte polyhandicapé, parce qu'en fait, si on agit, si on progresse, entre guillemets, si on a envie de faire des choses, c'est le sens même d'un projet, on le fait pas pour soi nécessairement, on le fait avec les autres et quelquefois aussi pour les autres.
Votre expérience, monsieur Michel Belot, vous avez eu dans votre carrière plutôt des enfants, plutôt des adultes.
J'ai travaillé dans les deux secteurs. J'ai commencé en pédopsychiatrie pendant 15 ans. Donc, ensuite, j'étais avec des adultes et des adolescents. Et en fin de carrière, je suis avec des adultes. Hein, mais bon, donc...
Vous avez vu, avec les enfants, une progression. Vous avez observé des personnes que vous suivez pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, personnes qui sont dans l'institution. Vous avez pu observer positivement un changement. Est-ce que vous avez observé un regard particulier de cette personne polyhandicapée? Il se passe quelque chose de magique, peut-être?
De magique, ça peut arriver. Surtout quand il y a des premières fois. Et ça peut quand même arriver à n'importe quel âge. Hein? Donc, la première sortie, alors, souvent, dans nos vies à nous, lorsqu'on a des enfants, on marque un peu toujours avec émerveillement la première fois que l'enfant marche, que la première fois qu'il dit papa ou maman, enfin, etc., etc.
Donc, et pour la personne polyhandicapée, vous avez observé des moments particuliers.
Oui, si on peut créer des premières fois. D'accord. Bien sûr, la première fois qu'ils prennent un bateau, la première fois qu'ils prennent le train, enfin, etc., etc. Donc ça c'est tout à fait souhaitable même. Par contre, la notion de progrès, je serais un peu plus réservé sur ça. Je préfère parler de développement. Je préfère parler de transformation. Il y a toujours un développement et une transformation qui se fait chez ces personnes. Elles changent, elles bougent. Ce qui ne veut pas dire la notion de progrès dans le sens de rattraper quelque chose ou dans le sens de progresser vers une normalité. Là, si on est dans cette perspective, ça sera difficile d'atteindre et même ça serait assez hasardeux, on va dire, et certainement contre-productif.
Vous avez dans votre ouvrage quelques exemples des projets personnels de Janine, de Marie, de Magali, d'André, de Romain, de Georges, de Guillaume, de Mohamed, de Anne, de Kylian, qui sont en fait des très beaux portraits. Et ce sont des portraits de ces personnes-là qui ont, pourrait-on dire, progressé, où il s'est passé quelque chose. Et avec votre méthode, votre démarche, vous avez pu les mettre dans une dynamique positive pour les équipes comme pour la personne, et y compris pour les familles.
C'est-à-dire que souvent, on a fait des projets individuels ou des projets personnels ou personnalisés, pardon. On les a fait... sans trop prendre en considération ce que fait la personne. Donc, dans ce livre, il y a les deux niveaux. Il y a le niveau général, parce que, bien sûr, dans le projet personnalisé, on doit prendre en compte l'état de santé de la personne, on doit prendre en compte sa dépendance, son autonomie, on doit prendre en compte les actes de la vie quotidienne, comment ça se passe, et les décrire de façon très très précise, parce que souvent, ils ont des habitudes, souvent, il y a même des actes très précis à faire avec avec eux, hein, au niveau de la vie quotidienne. Donc ça valait, disons, le projet personnalisé. Mais dans ce projet personnalisé, j'ai essayé d'introduire l'idée que le projet personnalisé, mais d'abord, c'est quand même le projet de la personne. Si elle ne peut pas parler, on va quand même valider certaines choses. Si on amène un enfant polyhandicapé au centre équestre et qu'on voit qu'il est différent que lorsqu'il est sur le groupe, qu'on voit que bon ben il sourit ou il regarde ou je ne sais pas, on va valider
que cette activité
convient à cette personne, mais on va la valider, on va pas dire il aime aller au centre équestre, et on va dire j'aime aller au centre équestre. Le risque avec les personnes qui ne parlent pas, c'est de les rendre objets, c'est-à-dire parler d'eux toujours à la troisième personne.
Alors que vous, votre démarche est une démarche clinique, c'est bien des sujets.
Voilà.
Et vous le dites clairement, ce sont des sujets qui pensent.
Alors c'est pour ça que le projet personnel, ce que j'appelle projet personnel, c'est très limité. J'aime tel aliment, j'aime bien dormir avec la lumière, enfin voilà. Mais ce sont des choses qu'on va valider et qui voient, voilà. Et donc il faut un consensus de l'équipe autour de ça, un consensus aussi avec la famille pour valider ce genre de choses. Mais bon, c'est aussi rendre acteur la personne dans ce projet.
Je vous propose de rejoindre Reggiani qui nous parle « J'ai 70 ans ».
T'as 70 balais, balais, va-t'en jusqu'à 100 ans, chantant. T'as eu 90, jadis, mais trois chiffres c'est mieux, mon vieux. T'as 70 printemps, tiens-t'en, jamais à eux, papa, faut pas. Grimpe encore à l'échelle du ciel, quelques longs échelons. Mathusalem, faut devenir Mathusalem pour montrer à la vie qu'on l'aime. Et puis tiens même, on lui en veut pas. Mathusalem, avant le temps des chrysanthèmes, fêter dignement sa centième pendant que la mort fait les cent pas. Des 70 bougies d'orgie, d'alcool, de trac, de femmes, de drames, fais-leur quelques nouvelles chandelles, finis pas le gâteau trop tôt. Mathusalem, faut devenir Mathusalem pour montrer à la vie qu'on l'aime. Et puis tiens même, on lui en veut pas. Mathusalem, avant le temps des chrysanthèmes, fêter dignement sa centième pendant que la mort. T'es 70 balais, balais, va-t'en plus loin, plus fou, plus fort. Écoute bien ton cœur, ton corps, te répétir en cœur encore. T'es 70 fois 12 mois de blouse, faut leur faire un enfant 30 ans. Avant de dire aussi, d'aussi, la seule famille rideau, rideau.
Esprit Occitanie, aujourd'hui avec Michel Boulot, qui vient de publier un ouvrage majeur qui fait référence dans le secteur « Construire le projet personnalisé de la personne gravement handicapée ». Cet ouvrage a le soutien du groupe Polyhandicap France et Michel Boulot anime souvent dans le secteur, dans toute la France, des séminaires avec le groupe Polyhandicap France. On revient à nos personnes gravement handicapées. Prennent-ils beaucoup de médicaments? Parce qu'on dit que souvent ces personnes-là ont vraiment beaucoup d'ordonnances, et dans l'ordonnance une kyrielle de médicaments. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Le côté soins, d'abord, est présent dans le projet personnalisé. Il faut absolument que toutes les personnes qui s'occupent, donc ça va des aides-soignants, mais également des AES, enfin bon, tous les accompagnants, les aidants, etc., doivent connaître la situation médicale
de la personne. Oui, alors, c'est important.
Des médicaments, ils en ont, mais je dirais modérément.
Modérément.
Ce sont des médicaments, il faut, par exemple, plus de la moitié ont des crises d'épilepsie, donc à cause donc des atteintes cérébrales, ce qui fait qu'ils ont des antiépileptiques pour beaucoup, y compris même s'ils ne font plus de crises pendant des années et des années, ils continuent à avoir un traitement antiépileptique. D'ailleurs, si on les arrête, ça devient dangereux pour eux puisqu'ils refont des crises ou ils peuvent en refaire. Ils peuvent avoir des traitements par rapport au transit intestinal. Enfin bon, ils peuvent avoir quelques anxiolytiques ou des choses comme ça. Voilà, bon, des traitements assez classiques, mais du fait de leurs problèmes médicaux. Hein. Donc en plus, ils peuvent être malades. Hein,
est-ce que dans le projet personnalisé de la personne gravement handicapée, est-ce que vous pouvez partir et mettre en place quelque chose qui puisse réduire une partie de prise de médicaments? Est-ce que c'est un parti pris de l'équipe de soignants au sens très large, de dire pour telle personne, dans ce projet personnalisé, nous allons tenter par exemple de réduire les médicaments, ou c'est vraiment là le médecin qui tranche avec la blouse blanche et l'autorité dite sanitaire? Est-ce que c'est une question qui se pose dans les équipes?
Je suis un psychologue hospitalier. Donc, à l'hôpital, il y a vraiment une hiérarchie médicale. Et c'est très bien, d'ailleurs. De toute façon, ce sont quand même les médecins qui font les prescriptions, médicamenteuses. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est d'une part qu'il faut ajuster le traitement et le réajuster
constamment.
C'est pour ça que dans le projet personnalisé, qui est réajusté tous les ans, le médecin est sollicité parce qu'il y a des traitements qui sont donnés au long cours, hein, donc, et il y a des traitements qui sont donnés ponctuellement mais qui perdurent alors qu'ils devraient s'arrêter. Donc ça permet aussi de faire le point. Ça peut arriver qu'il y ait des traitements qui continuent alors qu'on peut envisager de les arrêter. Voilà. Ce n'est pas comme en psychiatrie où on peut penser que les traitements psychiatriques puissent être néfastes à l'autonomie de la personne. Avec les personnes polyhandicapées, on ne se pose pas ce genre de questions.
Dans votre ouvrage, vous parlez d'une dimension clinique globale et vous mettez en avant trois points, pourrait-on dire, une pensée analytique, la pensée réflexive et la pensée créative. Cela veut dire quoi concrètement et comment vous organisez ce projet en tenant compte de cette élaboration de la pensée? Dimension clinique globale, cela veut dire quoi pour le psychologue que vous êtes et pour nos auditeurs qui sont des néophytes?
Alors, je vais revenir un peu sur la première question que vous avez posée. C'est sur la genèse de cet ouvrage. Au départ, c'est Elisabeth Sugman, qui est mon mentor, avec qui c'était vraiment une amie, avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui était présidente donc du groupe Polyhandicap France, c'était la présidente d'honneur, qui est décédée il y a un an et demi. Et donc, au départ, c'est elle qui m'avait demandé d'écrire. Parce que j'écrivais beaucoup d'articles, mais jamais, j'étais jamais lancé dans un livre. Et donc, je lui avais proposé d'écrire quelque chose sur le projet, et je lui avais donné à la fois la trame et le lexique. C'est-à-dire, la trame, c'est le plan d'un projet, un plan voilà, qu'on peut modifier, qu'on peut tout à fait transformer selon les besoins. Mais enfin, bon, c'est un guide, ça donne un guide, ça donne un cadre. Et les questions qui vont avec, c'est-à-dire qu'à chaque item, à chaque paragraphe, il y a une série de questions. Voilà, donc elle avait trouvé ça très très judicieux, elle était enthousiaste, enfin, etc. Donc le livre est né comme ça, mais au départ ça faisait 80 pages.
Et vous avez abouti à 235
voilà.
pages.
Et donc pages. Lorsque j'ai fait parvenir à un éditeur, qui l'a pris de suite en disant « c'est formidable », etc. Mais il faut doubler minimum. Voilà. Et ça m'a demandé 2 ans de plus pour... essayer de faire quelque chose qui soit global, qui soit cohérent, qui va vraiment dans le sens, dans la profondeur du travail qu'on peut avoir avec les personnes polyhandicapées. Ça n'a pas été simple pour moi de compléter. Alors, la partie dont vous parlez, c'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qu'il faut pour un professionnel pour travailler avec des personnes polyhandicapées, j'ai dit simplement une question, il faut penser.
Là, vous rentrez dans les concepts. Voilà. On reconnaît là le chercheur en psychologie.
D'autant plus que je trouve qu'on donne de moins en moins la possibilité aux professionnels de santé de penser, pour diverses raisons qui sont toutes mauvaises, de toute façon. Le travail d'un éducateur, le travail d'un soignant, d'une infirmière, d'un aide-soignant, ce n'est pas une prise en charge de portée. C'est aussi ça, bien sûr. Mais il faut penser ce que l'on fait. Il faut avoir une direction, il faut avoir une orientation, il faut avoir des intentions. Or, ça, c'est de moins en moins mis en avant dans l'organisation du travail, dans les formations initiales. Et donc, je me suis permis de réaffirmer l'idée que notre travail, avant tout, est un travail intellectuel, c'est un travail relationnel, c'est un travail de réflexion. Donc, en gros...
Analytique, réflexif et créatif.
Voilà, ce sont en gros les trois qualités que doivent avoir... une personne qui s'occupe de personnes polyhandicapées. Je ne dis pas pour qu'elle s'en occupe bien, parce que ça, c'est encore un autre problème, mais pour qu'elle puisse s'y retrouver et durer dans ce travail-là. S'il n'y a pas ça, on va à la catastrophe, enfin, le professionnel va à la catastrophe, c'est-à-dire qu'il va s'user, il va se décourager, et... Bon, ça va certainement avoir une incidence négative
sur la personne, sur sa vie et la personne suivie gravement handicapée.
Alors, bon, vous avez insisté sur l'idée d'observation. L'observation, c'est l'analyse. Et cette capacité d'analyse, c'est pas simplement décrire ce qu'on voit. C'est surtout décrire ce qu'on voit, mais c'est aussi dire ce qu'on voit. Et dès l'instant où on dit ce qu'on voit, on rentre dans une représentation.
Et donc de construire, selon vous, les bonnes représentations.
Il faut avoir une bonne représentation. Et la meilleure façon d'avoir une représentation la plus juste possible, c'est de la confronter avec les autres. Donc, par exemple, pour vous poser la question combien il faut être pour faire un projet, il faut être plusieurs. Hein? Voilà. Donc,
il n'y a pas de chiffres, mais plusieurs.
Non, il faut être plusieurs. Il faut être au moins 2 ou 3. Des fois, c'est difficile hein, d'être 3. Souvent, les projets sont faits à 2. Hein? dans les établissements. Il y a le référent, plus voilà, ils font le projet. Bon, et après, ils écrivent et ils le soumettent un peu, ils soumettent aux autres la lecture. Mais bon, donc, mais en tous les cas, il faut qu'il y ait ce travail d'analyse, d'observation. Et soyons clairs, cette observation, moi j'ai vu des observations extrêmement pertinentes faites par des personnes qui avaient très peu de diplômes. Et les familles sont hyper compétentes dans l'observation. Les familles, souvent, ce sont elles qui ont observé leur enfant depuis la naissance, ce sont elles qui ont essayé des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché. Voilà, donc au niveau de l'observation, en général, c'est certainement l'observation de référence.
Vous
donc,
invitez à une démarche phénoménologique, hein, M. Belot, c'est vraiment ça, quoi,
l'observation. Ah oui, non, mais ça, très clairement, c'est une démarche phénoménologique, oui.
Là, c'est du phénomène, on étudie les phénomènes.
Oui, on étudie les phénomènes, voilà. Par contre, il est nécessaire d'avoir une réflexion sur l'objet.
Sur l'objet regardé, voilà, ou sur l'objet analysé.
Voilà, donc c'est le côté réflexif. Des choses. Donc la pensée réflexive, c'est passer par une intériorité. Parce que là aussi, une des critiques qu'on peut faire dans l'évolution, disons, de la représentation du soin et de l'éducation, c'est que on a tendance à externaliser l'observation, à la voir de façon extérieure. Or, ce que j'essaye de développer, c'est que l'observation, elle est extérieure, mais il n'y a pas d'observation objective. Quand on prend une photo, on peut se dire, eh ben oui, c'est une photo, donc c'est objectif. Hein? C'est pas vrai, parce qu'on la prend à un certain moment, on la prend avec un certain angle, un point de vue, enfin, etc. Quand on fait une vidéo, on travaille beaucoup avec les vidéos dans par exemple dans les formations de simulation basale, enfin, etc. C'est pas objectif. C'est sûr que c'est un outil très intéressant, mais on va prendre la vidéo à un certain moment. Et pourquoi ce moment, pourquoi pas un autre? Et puis on va la prendre à une certaine hauteur, on va la prendre avec un certain mouvement, on va faire un zoom d'un côté ou un travelling. Enfin, tout ça, c'est du subjectif.
Ça, et là, ça implique le personnel, ça implique le professionnel qui analyse.
Voilà, donc on doit interroger cette part. Voilà. Et si on interroge cette part, ça passe par soi. Donc cette dimension intérieure est tout à fait nécessaire. Alors, avec les personnes polyhandicapées, elle est d'autant plus nécessaire qu'elle est vitale pour nous et pour eux.
Là, vous demandez quasiment un travail introspectif aux professionnels en disant ça, Monsieur Belot.
Oui, oui, non, oui.
Il faut le faire.
Oui, il faut le faire. Oui, donc c'est quand même l'intérêt. On passe quand même beaucoup de temps au travail. On peut pas le faire de façon mécanique ni machinale. Et s'intéresser à ce qu'on fait, pour moi, c'est une maxime.
Donc, et la pensée créative, donc.
La pensée créative, elle est aussi liée au grand handicap, parce que il n'y a pas beaucoup de méthodes, il n'y a pas beaucoup de choses établi, et souvent il faut faire preuve de créativité, d'ajustement, même des fois un peu de bricolage, pour pouvoir réaliser quelque chose avec les personnes.
Et dans ce métier, il ne faut pas avoir peur de bricoler. Il est même nécessaire parfois de bricoler.
Oui,
est-ce qu'on peut le dire?
Oui,
est-ce
oui.
qu'on peut l'affirmer?
Ah oui, enfin, moi, j'aurais pas de problème
dans votre
pour l'affirmer.
Il n'y a pas de problème.
Non, il y a du bricolage. Les familles aussi bricolent beaucoup. Hein. Les familles bricolent des ustensiles, bricolent des. Par exemple, bon, j'ai travaillé à l'hôpital Marin. On a été les premiers à faire. Le tir à l'eau, ce qu'on appelle tir à l'eau, c'est-à-dire c'est un engin pour mettre les personnes gravement handicapées dans l'eau.
Dans l'eau.
Avec trois roues gonflables. Et voilà. Donc, j'étais, quand on a fait les essais, les premiers essais, ça date des années 90. Et donc, ce tir à l'eau est devenu... un objet.
Est aujourd'hui un objet que l'on retrouve quasiment dans toutes les plages françaises aujourd'hui.
De France, d'Europe.
D'Europe pour accueillir.
Ah oui, vous avez ça au Portugal, en Espagne, en Italie, on le voit. Bon. Voilà. Mais c'est du bricolage au départ. C'est vraiment du. Voilà. Mais il faut y penser. Il faut se donner les moyens de. Voilà. Donc, d'expérimenter. Il faut essayer, on tâtonne, essaie, on rectifie. Donc, on est dans cet esprit créatif. Il faut inventer.
Ça, c'est... Vous avez travaillé dans cet ouvrage, à deux reprises apparaît l'expression de la stimulation basale. Et vous êtes formateur de cette méthode de stimulation basale. Vous en parlez dans cet ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et cela veut dire quoi, stimuler basalement quelqu'un, notamment les personnes polyhandicapées, mais personnes polyhandicapées, et je sais que vous l'utilisez également pour les personnes très dépendantes qui sont en EHPAD et qui ont vraiment des problèmes de handicap. Alors, stimulation basale, d'où ça vient?
Alors, ça vient d'une... c'est une approche d'abord. Ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire... c'est une façon d'approcher la personne. C'est pas une méthode.
Pas une méthode.
Non,
c'est alors, plus. Alors que moi, voilà. Je dis c'est une méthode. Donc, vous rectifiez.
Voilà. Donc ça, c'est une approche, c'est-à-dire que c'est une façon d'envisager notre action avec la personne. Simulation, ça veut dire pour les personnes qui ont conçu cette approche, c'est-à-dire Andreas Frolich, qui est un professeur de pédagogie allemand qui a travaillé avec une équipe dans les années 70-80, et puis ça continue jusqu'à aujourd'hui. Le mot stimulation veut dire sollicitation, veut dire invitation. C'est-à-dire qu'on va solliciter la personne, on va l'inviter, et de façon basale, c'est-à-dire en utilisant des canaux de communication, en faisant des actes qui sont extrêmement élémentaires. Parce que ces personnes-là comprennent ces stimulations-là, ne comprennent pas des stimulations trop élaborées. Donc, c'est se mettre au niveau de communication de ces personnes-là. Pour Andreas Frolich, il y a trois stimulations élémentaires. C'est essentiellement le toucher, mais c'est vrai qu'ils sont très souvent touchés. Ils sont experts dans le toucher parce qu'ils ont été touchés par beaucoup, beaucoup de personnes, parce qu'ils sont complètement indépendants. Hein, donc
il faut savoir toucher la personne.
Absolument. Oui, ça, c'est vraiment... C'est élémentaire. D'autant plus qu'ils sont très, très... pertinent à ces niveaux-là, ils arrivent tout à fait à décoder nos états émotionnels, notre disponibilité à travers le toucher. Autre stimulation basale.
Je vous dirais première fois que vous prenez dans les bras une personne polyhandicapée, qu'il faut la soulever pour monter dans le train. Il y a une expérience singulière qui se passe. C'est le corps de la personne déformé. Quand vous la prenez, parfois vous sentez peu de chair, vous sentez les os. C'est assez singulier comme expérience.
Oui, oui. Je pense que toute personne qui s'est occupée de personnes polyhandicapées se rappelle...
Se rappelle de la première fois. Vous avez touché une personne polyhandicapée.
Il se rappelle de la première fois. Et il arrive aussi qu'il y ait des soignants qui disent qu'ils ne peuvent pas.
Qu'ils ne peuvent pas.
Oui, ça, c'est...
C'est très difficile.
Donc, voilà. Donc, pour revenir aux simulations basales, donc, il y a aussi le mouvement. L'idée que même une personne très paralysée a besoin de bouger, a besoin de faire des mouvements, ce qu'on peut constater. Par exemple, il y en a certains qui sont paraplégiques, c'est-à-dire qui ne bougent absolument pas les membres, mais qui bougent tout le temps la tête.
Qui bougent la tête.
Voilà. Bon. C'est un besoin. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comme c'est un besoin, qu'on voit qu'il a une appétence à bouger, eh bien, on va bouger avec elle. On va leur proposer des mouvements. voilà, donc, etc. Et le troisième, c'est donc la vibration. Ce sont des gens qui ont besoin de vibration. Et cette perception vibratoire, ça, il la recherche, soit en se tapant, soit en tapant les objets, soit on pense, c'est une des hypothèses d'estimation basale, que ça leur permet de sentir leur corps, c'est-à-dire d'exister.
Et justement, nous allons partir dans Nouvelle-Orléans avec un peu de jazz et nous, on va bouger.
Rhythm is our business, business shoots well. If you blue, rhythm is what you need. If you got rhythm, you should succeed. Rhythm is our business, business shoots well. I'm the drummer man in the band.
In the band.
Whoa, I play on my drums in the band.
In the band.
When I do trick with sticks, boys in the band, they play hot lips. Saxophone in the band.
In the band.
Oh, Michel played a saxophone in the band.
In the band.
When he pulls up his string, oh, baba doo doo dum, snap, 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 eh. On the bass in the band.
In the band.
Oh, he plays on that bass in the band.
In the band.
When he plays, pull his strings, happiness to you he brings. Eric played the trumpet in the band.
In the band.
Oh, he played the trumpet in the band.
In the band.
When he blows, goes so high, make you think he's in the sky.
Esprit Occitanie, sentinelle d'humanité, toujours avec Michel Belot pour son ouvrage « Construire le projet personnalisé de la personne gravement handicapée », un ouvrage pratique, didactique pour les professionnels, pour les aidants, pour les familles. Et cela a été réalisé en soutien, avec le soutien du groupe Polyhandicap France. Monsieur Michel Belot, stimulation basale, démarche clinique globale, pensée analytique, pensée réflexive, pensée créative, mais également vous vous êtes occupé de la douleur et la personne polyhandicapée a mal, ressent la douleur malgré toutes les difficultés neurologiques et vous avez mis au point une échelle, une graduation qui permet de regarder de plus près, d'observer ou en tout cas d'identifier la douleur de ces personnes-là. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, bien sûr. alors ça se passe dans les années 95. Donc à l'hôpital Marin de la PHP, donc de Paris. L'hôpital Marin étant un hôpital délocalisé à Hendaye, mais qui dépend de Paris. À ce moment-là, et c'est toujours valable, il était absolument obligatoire qu'il y ait une évaluation douleur dans les dossiers des patients, puisque c'est comme ça qu'on les appelait. Et on s'est retrouvé fort dépourvu lorsque... Il a fallu faire des évaluations de douleur de personnes polyhandicapées. Donc il y a eu une première expérience qui a été faite à Saint-Salvador, qui est aussi un hôpital de la PHP du côté de Marseille, qui a donc créé une échelle douleur pour enfants polyhandicapés. Et à Hendaye, nous avons continué le travail en... s'inspirant beaucoup de cette échelle-là, en essayant de la travailler, de la modifier, de l'améliorer. Et donc, nous avons fait une échelle pour adolescents et adultes, parce que c'était la population qui était concernée à l'hôpital d'Hendaye. Voilà, donc,
et aujourd'hui, les professionnels peuvent l'utiliser.
Bien sûr.
Fait plusieurs articles, vous avez publié cette échelle.
Alors, c'est une échelle qui... Alors, l'idée, c'est... on peut penser ce qu'on veut de Kouchner... c'est lui qui a imposé qu'il y ait ces évaluations de la douleur. Ce qui est une bonne chose quand même, parce que ça nous a fait faire un saut.
Vrai que la France était en retard, y compris pour les personnes valides. La question de la douleur était un problème.
Alors, la France était soi-disant en retard.
Oui.
Pour nous, la France, après, elle a été en avance.
D'accord.
Parce qu'en Allemagne, il n'y avait pas d'échelle douleur pour les polyhandicapés, ce qui fait qu'on a traduit... je connaissais très bien Andreas Frolich, donc il nous a ouvert des portes, et c'est vraiment... On a traduit l'échelle d'Hendaye. Alors, je suis co-auteur, on est tout un groupe à avoir travaillé cette... On a mis 7 ans, 8 ans pour faire cette échelle, parce qu'elle est évaluée, elle a été évaluée deux fois, enfin bon, etc. C'est une échelle validée scientifiquement, quoi. L'Allemagne n'avait pas d'échelle, ils l'ont traduite et elle marche très très bien en Allemagne. Elle a été traduite en castillan. Alors en castillan, c'est un peu plus compliqué parce que se développe pas si bien que ça, finalement. Et en France, elle est bien sûr utilisée, reconnue comme outil. Hein, ça, c'est pas... Alors, c'est un outil qui est assez complexe à utiliser, parce que, bien sûr, là aussi, ce sont des personnes qui ne communiquent pas, donc qui ne peuvent pas dire qu'elles ont mal. Donc, c'est une échelle comportementale, dans le sens où on fait de l'observation, et en recoupant les différentes observations... Il y a 11 items, on arrive à évaluer s'il y a douleur ou pas. Et dès l'instant où il y a douleur, c'est au-dessus de 7, on traite. Et l'échelle permet aussi de voir l'efficacité du traitement antidouleur. Bon, c'est assez contraignant, puisque, en général, à l'hôpital, par exemple, si vous dites « j'ai mal à la tête », on va vous donner quelque chose. On ne va pas vous demander de passer un test pour savoir si vous avez mal à la tête. Tandis que là, on est obligé de prendre à peu près un quart d'heure
pour évaluer la personne. Pour comprendre ce qui se passe dans la tête de la personne polyhandicapée. Pour ça. Nous arrivons au terme de notre émission, Monsieur Michel Belot. Et dans votre ouvrage, sur la fin de l'ouvrage... Vous dites, et vous citez quelques auteurs, philosophes, et vous dites que la personne, il faut rentrer en résonance avec la personne polyhandicapée, et vous citez, parce que je sais que vous êtes un amateur de flamenco, vous utilisez la question du duende, c'est-à-dire cette résonance, ce qui se passe quand on écoute le chant flamenco, mais vous dites la même chose, il se passe quelque chose quand on écoute le jazz, il y a le feeling... Bref, rentrer en résonance, et vous l'avez abordé au cours de cette interview, disant qu'il faut savoir en résonance cette vibratoire de la personne polyhandicapée. C'est quoi cette rentrée en résonance ?
C'est une façon de dire qu'il faut rencontrer la personne, et que la personne, quand on la rencontre, elle nous amène des choses. Il y a des choses qui résonnent en nous. dans cette rencontre. Ça ne se passe pas que d'un côté. La personne pour les handicapés nous amène beaucoup de choses. Souvent, on dit « Oh, c'est formidable ce que vous faites comme travail. S'occuper de personnes aussi difficiles, aussi handicapées, c'est une mission, il faut avoir la foi. » Enfin bon, c'est c'est pas...
Tout le verbatim autour de cette question.
C'est pas du tout ça. En fait, ces personnes-là, c'est sûr qu'on leur donne... On est quand même payé pour ça aussi, mais on donne beaucoup, mais on reçoit aussi beaucoup. Et il y a une résonance là-dedans. Et ce qu'on reçoit n'est pas tellement prévisible. C'est souvent des choses tout à fait imprévues. On sait ce qu'on donne, on ne sait pas ce qu'on reçoit, mais on reçoit. Et il faut avoir conscience que, justement, c'est très riche ce qu'on reçoit. Et moi, je dirais que, surtout avec des personnes qui ne parlent pas, la résonance, elle est vraiment vibratoire, comme dans les musiques de trance, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a une connivence qui se fait au-delà des mots. Et il est bon de capter ça. Ça, c'est des choses qui nous font progresser, nous, professionnels, là-dedans. Et c'est aussi notre intérêt de travailler avec des personnes gravement handicapées, parce qu'il y a quand même une exclusion de ces personnes-là, y compris par les professionnels qui ont des difficultés à s'occuper de personnes trop handicapées, pour qui il n'y a pas de guérison possible, pour qui les progrès sont minimes.
Souvent,
etc.
Pas de guérison possible. Ouais. Donc, il faut continuer ce travail.
Mais on travaille autrement.
Autrement. Ouais. Nous arrivons au terme de notre émission. Monsieur Michel Belot, merci beaucoup.
Merci à vous.
De votre présence. Merci beaucoup du travail que vous faites avec les personnes gravement handicapées. Cet ouvrage, courte page publicitaire, Groupe Polyhandicap France, ouvrage majeur de référence, construire le projet personnalisé de la personne gravement handicapée, 230 pages pour la modique somme de 19,90 €. Dans toute bonne librairie, on peut le commander. Bien entendu, cela sera sur le site de Esprit Occitanie et nous donnons rendez-vous à nos auditeurs pour la prochaine émission de Sentinelle d'Humanité. Michel Belot, merci beaucoup.
Merci à vous.